Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonsoir chers lecteurs, chères lectrices, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour votre émission littéraire Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère et la librairie La Livrerie dans laquelle nous nous trouvons pour ce direct. Alors ce soir nous allons tanguer ce qui, vous me direz, est dans l'habitude d'Élodie et de Valérie, surtout le mardi soir, mais aussi le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir et parfois le lundi soir.
T'as oublié le dimanche.
Et le dimanche soir, des fois.
Merci.
Mais il ne sera pas question d'ivresse ce soir, non, pas de vague à l'âme, chers amis, mais de vague tout court. Il y a tout juste 123 ans, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic, paquebot qui devait relier Southampton à New York, est entré en collision avec un iceberg coulant dans l'océan, d'où l'idée du thème de ce soir. D'ailleurs, juste avant de commencer cette émission, Élodie, sirotant un rosé accompagné d'un glaçon, a eu cette réflexion intéressante. Si ce foutu bateau avait été solide que mes dents face à ce glaçon, il n'aurait pas coulé. Mais l'océan n'est pas que naufrage, c'est aussi découverte et aventure, les grandes traversées, la route des Indes, les tempêtes, des enquêtes policières au sein de la marine anglaise du 19e siècle, des petits requins, des poissons-fesses, Ah tiens, mais Zélie est de retour, non ? Ah bonjour Zélie !
Bonsoir.
Voilà, donc Zélie, la demoiselle rosacée, au teint rosacé à côté de toi, je te la présente, c'est Élodie. Salut Élodie.
Bonsoir.
Nous avons
aussi... Fais une allusion avec le temps pour me dire bonsoir,
non,
tu vas voir.
Non, certainement pas. Salut Marlène.
Salut.
Non, j'avais marqué « Et Valérie, ohé du bateau ».
Oui, oui.
Oui.
Ah non, ça c'est au bal masqué,
non, ça,
pardon.
Ça c'est bal masqué.
Oui, oui, capitaine abandonné.
Non, ohé du bateau.
Ouais, moi, j'étais voilà. Sur Oui, oui, capitaine abandonné, ça passe aussi.
Ça passe aussi, ouais.
J'adore le début
d'émission, vous a déjà perdu.
Ouais, c'est ça. Allez, on va commencer. Tu as raison, Elodie, comme ça, on ne se perd pas. Marlène, ça fait longtemps. Alors, grâce à toi, j'ai appris que notre cher écrivain français Sylvain Tesson était adepte d'escalade de Stax. Alors, il nous étonnera toujours, hein, ce Sylvain Tesson. Donc, les Stax, d'après Sylvain Tesson, sont les piliers de la mer. C'est le titre du livre. Marlène, c'est quoi exactement un Stax ?
Un pilier de la mer.
Voilà. Mais
j'adore. Cette émission commence
vachement bien.
C'est ça.
Déjà, Stax, c'est la traduction anglaise, en gros.
Ah, de pilier de la mer. Mais voilà. Non, mais pour dire, c'est
les blocs de rochers.
Voilà, c'est ces piliers rocheux qui sont en face des falaises qu'on voit sur.
Voilà.
Près des côtes.
Voilà.
Bretonne.
Ok. Alors, on est parti sur Tesson. Donc, ces fameux piliers. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, quand vous les voyez ? Les plus connus en France, c'est Étretat. Est-ce que c'est un morceau de la côte qui s'éloigne de la côte ? Ou est-ce que c'est la côte qui s'est éloignée du morceau ?
Ah.
Voilà.
Côte qui s'est éloignée du morceau, puisque la pierre a été rongée, c'est ça ?
Donc, ouais. En fait, Tesson, il nous explique que, du coup, les Stax, bon, un terme anglicisme, mais bon, c'est comme ça. Il utilise l'anglicisme dans tout son ouvrage, mais il parle bien de piliers au départ, il explique ce que c'est. En fait, effectivement, c'est la côte qui, avec l'érosion et du coup le ressac de la mer est travaillée, devient une arche. Et après, le pilier, enfin le haut de l'arche s'effondre et on est sur un pilier.
Ok, bravo.
Voilà. J'ai appris ça. J'ai trouvé... Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est voilà. Alors, ce que j'ai aimé, parce que bon, voilà, c'est du Tesson. Alors, il y a des critiques, effectivement, qui disent que ben, c'est bon, en fait, Tesson, on a tout vu, on a revu, et en fait, il prend n'importe quel prétexte maintenant pour réécrire à peu près à chaque fois la même chose. Voilà. Donc ça, c'est les critiques actuelles sur cet ouvrage-là.
C'est un de ces derniers
C'est le dernier.
C'est le dernier.
Il vient de sortir.
Ah, il vient juste de sortir. Super.
Et Et après, il y a les autres qui, on va dire, sont encore accrochés à ce qu'il fait découvrir, voilà, au fait qu'il voyage, qu'il nous transporte, voilà, qu'il nous fait découvrir d'autres choses. Donc là, effectivement, on est sur la découverte des piliers de la mer. Moi, je savais absolument pas, voilà, le comment c'était construit, etc. Bon, c'est le recul. Lui, voilà, il a décidé d'en escalader plusieurs aux quatre coins du monde. D'ailleurs, à la fin, il y a une carte avec vraiment ceux où il est allé. Et sachant que le seul qui est interdit, c'est Etretat, qu'il a quand même fait, alors que c'est interdit, n'est-ce pas? Voilà. Et donc après, c'est vrai que du coup, c'est la découverte de certains endroits, le pourquoi ils existent, certains qui sont devenus des rochers sacrés, notamment, je ne sais plus où c'est, dans les îles là où on les appelle... à côté des îles Marquises là-bas et tout ça là. Et en fait c'est des rochers sacrés où à l'époque par exemple les jeunes hommes couraient devaient descendre la côte, monter sur ce rocher, récupérer un œuf d'un oiseau et revenir, et ils étaient voilà, encensés,
des rochers initiatiques.
Voilà, ça s'est passé pendant des siècles, maintenant ça se fait plus. Enfin voilà, il y a tout un, il y a le plus lointain qu'il ait fait, c'est au Cap Horn. Sachant que le Cap Horn, il y a tout l'imaginaire de tous ceux qui se sont fracassés là-bas, qui sont jamais revenus. Voilà, c'est un monde un peu particulier. Donc voilà, il y a un petit peu toutes ces explications de ce qu'il a fait.
Toi, tu te situes où par rapport aux critiques qui ont été données sur ce livre et aux points positifs?
Alors moi, j'ai aimé le côté voyage parce qu'en fait, peut-être que c'est aussi, je suis dans une période où je ne voyage plus et que du coup, comme je suis un peu en manque de voyage, ben voilà, grâce à lui, j'ai revoyagé un petit peu. Je me suis dit, ah oui, quand même, c'est vrai que c'est cool ça, de faire ça. Voilà.
Ouais, plutôt.
L'escalade, pas du tout, par contre. Je suis pas du tout adepte, donc voilà, on repassera. Mais donc j'ai aimé ce côté-là. Après, par rapport à la thématique de l'émission, je me suis dit que ce qui était sympa, pour une fois, c'est que là, la mer, elle est vue aussi d'en haut. C'est-à-dire que la mer, on la voit souvent d'un bateau, on la voit souvent des côtes, on la voit souvent... Et là, en fait, il monte sur ces espèces d'éperons rocheux, là, voilà. Et il la contemple seul. Et ils sont seuls, et des fois, c'est sur des petits espaces où vraiment, ils tiennent à peine, quoi. Et c'est une autre vision de la mer, où, en fait, bon, déjà, un, ils sont en danger potentiel aussi... Et c'est vraiment complètement autre chose, quoi. Et du coup, moi, ça m'a un peu donné l'impression d'être en haut d'un phare, voilà, et de vraiment... Donc, c'est cette vision un peu la mer différente, quoi. Je suis pas allée en dessous, je suis pas allée au-dessus, mais là, je suis complètement au-dessus, mais vision différente, quoi, de l'homme.
Et comment s'est passée la compagnie de Sylvain Tesson durant ton observation de la mer?
Alors, il fait comme d'habitude. Donc, ah non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, nous avons des grandes emphases, des gros paraphages. Il est très... Enfin, j'avais trouvé un passage que je n'ai pas gardé. Je ne sais plus où il est. Alors, le côté description de ces blocs, description de la solitude, description de la liberté, ça nous prend en trip, c'est du Tesson. Le côté, en fait, l'homme est allé partout, et même là, parce qu'il y a même des endroits où c'est pas lui qui a été le premier. Voilà. Ouais, tu voulais que je dise quoi d'autre?
Non, c'était pour savoir. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais...
Non, mais après, il est à lire, quoi. Voilà. Il est à lire.
Ouais, par rapport à une Panthère des Neiges ou Chemin Noir.
Après, moi, c'est pas mon préféré. Ouais. Voilà. C'est découpé en 22 passages, donc c'est très court, parce que du coup... Alors, il y a des passages où c'est vraiment le Stax d'un lieu qu'il décrit avec un peu tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se joue, par exemple, notamment en Afrique du Sud, où c'est un jeune homme noir qui les accompagne jusqu'au site pour monter sur le Stax. Et quand ils reviennent à la voiture, ce jeune homme est entouré d'une vingtaine de policiers blancs. Voilà. Encore à notre époque. Avec voilà, tout ce que ça... Donc, il digresse là-dessus. Mais il y a d'autres endroits où il va dégrisser sur la liberté, sur ce que c'est que de contempler la hauteur. Ils se sont amusés à en nommer certains, notamment ceux qui sont en Europe, parce qu'il n'est pas parti tout seul non plus.
C'est pas un peu trop redondant
C'est pour ça qu'il y a les critiques qui disent que voilà, ça c'est après quand on aime Tesson, on le lit, enfin franchement voilà, on le lit quand même, ça se lit, c'est voilà, ça se lit, ça donne envie, mais voilà, on reste un peu toujours effectivement dans la même chose. Mais c'est pas mon préféré non plus, effectivement. Okay. C'est pas voilà,
Alors géographe de formation, hein, Tesson, et passionné d'escalade, donc voilà, on est totalement dans ces deux passions.
Voilà.
Ok, merci beaucoup Marlène. Il est sorti chez qui
Ben là, c'est Albin Michel.
C'est Albin Michel. D'accord.
C'est tout récent, tout récent.
Ok.
C'est quoi, il y a 15 jours, même pas. La semaine dernière.
Ben moi je oui puisque moi c'est la semaine dernière. Je l'ai acheté pour ma maman à la base.
D'accord. Je voyais qu'il n'était pas encore étiqueté médiathèque.
C'est ça. Donc non, il est à bois et oui, ben je l'ai. Oui. Moi, je l'ai acheté il y a 10 jours.
Donc... 10 jours. Bah, tout nouveau, mais c'est bien. On aura eu la primeur voilà. De la critique du dernier Tesson.
Super. Ceci dit, il y en a déjà qui ont critiqué, du coup, puisqu'ils ont déjà dit c'est du refroidi, du réchauffé.
Et toi, tu as critiqué la critique.
C'est vachement bien.
C'est vachement mieux, quand même. Ouais. Élodie, la glorieuse vengeance de Maud Horton de Lydie Pook.
Ça, j'aime c'est bien récent. Son nom.
Lydie Pook, ça aussi,
c'est récent, mais ça a un peu plus de 15 jours quand même. Hein, il est sorti,
pourquoi il y a que moi, on me donne des livres qui ont de 1982 là.
Tu voulais des choses courtes, c'est important. Genre. Voilà, c'est ça, il fallait des choses courtes.
Certainement pas.
Oui, alors moi je suis partie sur la thématique de la mer, mais beaucoup plus l'aventure, l'exploration. Je suis partie un peu plus là-dessus. Et alors moi je dis Maud Horton. Alors, je sais pas.
Ah oui, oui c'est possible.
Non, moi, je dis Maud Horton aussi. Oui, aussi.
Pardon, autant pour moi.
Voilà. La glorieuse vengeance de Maud Horton. Alors, Valérie l'a lu, on a échangé deux minutes juste avant. C'est un roman historique à suspense qui se passe dans le Londres victorien en 1850. L'histoire, le pitch, c'est Maud Horton qui va partir à la recherche de sa sœur Constance. Elle vient d'apprendre qu'elle a disparu. Très vraisemblablement, elle est morte. Elle avait embarqué sur un bateau où elle s'était travestie en homme et c'était un navire d'exploration pour aller à la recherche de John Franklin, qui est, c'est du coup là, ça part d'un fait véridique et historique, qui a disparu en mer lors d'une exploration arctique. Avec 130 hommes. Et donc, on se retrouve dans une sorte d'enquête. Elle va essayer de savoir qu'est-ce qui est arrivé vraiment à sa sœur. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a des choses que j'ai aimées et des choses que j'ai moins aimées. C'est un livre qui ne fait pas forcément l'unanimité, en tout cas qui a des résultats mitigés, parce qu'on met un petit peu de temps à rentrer dedans. Il est assez exigeant en termes de lecture, mais il est quand même très bien écrit. Et... Donc, il a une écriture un peu particulière. Hein. Je ne saurais même pas comment qualifier cette écriture.
Bien écrit, je dirais.
Ouais, c'est bien écrit, c'est au présent. Et on a trois styles un peu qui se succèdent. On a un coup le point de vue donc de Maud qui fait l'enquête sur sa sœur. On a le point de vue d'Edison qui est le principal suspect qui on sait qu'il a joué un rôle dans la disparition de
on
sa sœur.
On n'aime pas dès le départ Edison.
Voilà, c'est un vilain, il est antipathique. On sait que c'est un vilain. Ouais. Et on a le point de vue surtout de Constance qui est la victime puisque sous le nom de Jack Aldridge quand elle a pris des habits d'homme pour montée sur ce bateau, elle a tenu une sorte de journal de bord et qui rentre en possession de Maud, de sa sœur. Donc on va suivre et on va essayer, on s'attache un peu à ces deux héroïnes, ces deux sœurs. Alors c'est un peu féministe aussi. C'est des femmes, voilà, on est vraiment dans un milieu d'hommes, c'est froid, on est sur l'Arctique, c'est vraiment une mer hostile. Hein, c'est, voilà. Et le Londres aussi dans lequel évolue un peu l'histoire est hostile aussi. On a l'odeur des docks, c'est sale.
C'est crasseux. Londres,
ouais,
c'est très, très crasseux.
Voilà, il y a les vieux... Ouais, tout est sale, quoi.
Les peuples très sombres, très enfumés, on sent le...
Voilà. Et on est en plein... Et là, moi, c'est ce que vraiment j'ai préféré dans la partie du livre. On est en pleine murder mania. Donc, on a ce fameux Edison qui cherche à faire de l'argent à tout prix et qui va se lancer dans l'excursion un peu morbide et macabre. Il va créer le tourisme un peu morbide. Déjà, à l'époque, c'était l'époque des résurrectionnistes, hein, ceux qui déterraient les corps pour les donner aux écoles de médecine. Voilà. Et donc là, on a des bourgeois, des nobles qui partent en expédition, en excursion, on va dire. C'est les premières expéditions voyages organisés, mais pour aller voir des pendaisons ouais. publiques. Donc il y a eu les fameuses époumanines qui ont quand même rassemblé à cette époque, un fait véridique, entre 30 000 et 50 000 personnes. Donc il y avait vraiment toute l'Angleterre qui se déplaçait pour aller voir des pendaisons publiques. C'est assez intéressant. Il y a presque, moi, ce que j'ai préféré, finalement, c'est les notes de l'auteur à la fin où elle explique ses recherches historiques par rapport à cette murder mania. Donc c'est assez intéressant, c'est assez juste comme, comme récit. Mais voilà, ça demande un peu d'effort pour rentrer dedans. C'est pas un livre qu'on dévore en deux jours, quoi. Moi, il m'a fallu plusieurs fois revenir dessus. Mais franchement, j'ai quand même passé un bon moment, quoi.
Ouais, comme on disait, c'est le titre, en fait, ne va pas avec le contenu.
Voilà,
la vengeance de Maud Orton aurait
suffi. C'est ballot, ça.
Voilà, ouais. C'est ça. Non, parce qu'il y a vengeance, on va pas spoiler le truc, mais c'est pas foufou non plus, c'est pas glorieux comme vengeance.
L'important, c'est l'histoire et pas la
exactement, pas la finalité, quoi. Ouais. Donc, en fait, on est un peu déçus parce qu'on s'attend à une fin un peu hallucinante. En plus, c'est une super jolie couverture un peu dorée. Voilà, on s'attend à un truc avec des paillettes et pas du tout, en fait. C'est pas glorieux, c'est juste une... Bon, elle se venge, quoi. Voilà. Donc, c'est là-dessus que ça mit.
D'accord, ouais, mais l'écriture est plutôt chouette. Pas mal, chouette l'histoire
livre.
Est bien,
non, franchement,
donc quand
chouette
même chouette livre.
Ah oui, ouais. Très chouette livre.
Ça, ouais. et le fait aussi de suivre le journal intime, enfin le carnet de bord de sa sœur, on se dit à quel moment le journal va s'arrêter, et ça met une sorte de suspense.
Parce qu'on sait comment ça finit, on sait qu'elle meurt, donc bon, à un moment donné, dès le départ, on sait qu'elle meurt, mais on appréhende à chaque fois cette fin, on sait à la fin comment est-ce que... Mais moi, même à un moment donné, je me suis demandé si elle était vraiment morte.
Oui, ouais, t'as toujours
on se le demande quand même. Ouais. Après, ce qui est sympa aussi, c'est ces petites descriptions, parce que vraiment, moi, j'avais l'impression d'y être, c'est assez foisonnant, les deux, elles ont grandi dans la pharmacie de leur grand-père.
Ah, c'est génial.
Et donc, on est à fond dans les potions, dans l'herboristerie. Alors l'une, elle est sur le bateau et elle seconde un peu le médecin du bateau. Alors
qui la protège un peu des hommes,
et puis elle, Maud, elle va se servir de ses compétences pharmaceutiques du coup pour se venger, quoi. Mais du coup c'est assez chouette. J'ai bien aimé cette partie là.
Ouais, puis il y a cette angoisse tout le temps comme elle est montée sur ce bateau en tant que
qu'elle soit découverte.
Ouais, qu'elle soit découverte. Et c'est moi, chaque fois que j'ai lu le carnet, j'avais cette angoisse de me dire
quand est-ce qu'ils vont savoir
Se rendre compte que c'est une femme, et ce qui signifierait son arrêt de mort. Voilà.
Oui, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas prendre la
viol, parce qu'elle s'est cachée par rapport à ça.
C'est sympa le cycle, tu vois, déjà rien que ça, tu te dis comment tu fais niveau hygiène, quoi.
Alors, oui,
si, mais ça, on en parle à un moment donné.
Elle explique à un moment.
Elle le raconte.
Elle raconte,
mais c'est vraiment bien.
D'ailleurs, elle est découverte à un moment.
Oui, mais par le chirurgien, justement. Mais comme elle l'aide, comme elle a ses compétences grâce à son grand-père qui me cher, moi je le plains, ce grand-père. Qui se retrouve à devoir élever. Sont jumelles en plus.
Ah, je sais pas si.
Il me semble, non c'est...
Non, je sais pas.
Ah, je sais pas pourquoi j'ai
laissé la grande sœur et non, je pense qu'elles sont rapprochées.
Mais, pas de voir, ben voilà, une qui est partie, l'autre qui finalement part à sa recherche. Enfin, c'est. Ouais, moi j'ai beaucoup d'empathie.
Suspense, avec ouais, on est dans du réel. Enfin, non, c'est pas mal. Un bon thriller historique.
Très sympa.
Ouais,
Lydie Pook est donc anglaise, journaliste et écrivaine de voyages primés. Elle est partie dans certaines des régions les plus reculées de la planète. Elle est allée au Groenland à la recherche d'ours polaires errants, au contrefort de l'Himalaya pour traquer les léopards des neiges en voie de disparition. Pour son premier roman, elle a passé du temps au nord-ouest de l'Australie à faire des recherches sur l'industrie dangereuse et fascinante de la pêche aux perles.
D'ailleurs, c'est le titre de son premier livre.
D'accord.
C'est la fille du pêcheur de perles de mémoire.
Et on croise des ours dans ce bouquin, on croise des narvals, ça pêche.
Des parties de narvals aussi.
Ouais, des parties de narvals, mais du coup, il mange bien, quoi.
Quelle partie ?
J'ai l'impression qu'il galère pas. Il galère pas pour manger. Il meurt pas de faim sur les bateaux. On dirait qu'on récupère
des...
Il y avait des scorbuts à un moment donné, il me semble. Non, il n'y avait pas une...
Non, il y a des doigts écrasés par des poulies, là, des machins.
Ouais. Il me semblait qu'à un moment donné, il y avait...
Oh, à cette époque-là, il devait bien avoir un peu de scorbut, quand même.
Il fallait bien ça.
Ok, maison d'édition...
Gallenmeister.
Ok, super.
Comme souvent.
Bah ouais, mais quand c'est bon, c'est comme ça. Hein.
Alors, on va voir si c'est pareil, si c'est la même maison d'édition, Valérie. Parce qu'on va partir sur la route des Indes, au milieu de tempête, avec Yann Lespoux pour Mourir. Le Monde. Ah, voilà,
pour,
titre,
mourir,
c'est pour mourir,
virgule, le monde.
Ah, c'est virgule. Ah, j'ai mis un point.
Non, c'est pas grave. C'est
pour mourir, virgule, le monde.
C'est peut-être que ma photo n'était pas de bonne qualité quand je te l'ai envoyée, tellement l'émotion était grande de parler de ce livre. Donc, tu rouspétais que tu avais, toi, des livres anciens à présenter, vu que les filles avaient des livres fraîchement sortis. Le mien n'est absolument pas récent, il a 2 ans, je pense, peut-être même bientôt 3. Joyeux anniversaire. Mais en fait, quand on a choisi le thème de la mer, je ne me voyais pas ne pas en parler tellement ce livre est pour moi bien fait. Est-ce que tu veux parler de Yann Lespou ou pas ?
Si tu veux.
Je pense que c'est important.
Il a grandi dans le Médoc, il enseigne l'occitan à l'université Paul Valéry à Montpellier 3 et collabore à diverses revues, Marianne, Alibi, Sang-Froid, 813, pour lesquelles il chronique des romans noirs. Et il a un blog, encoredunoir.com, Presqu'île, et son premier recueil de nouvelles. Voilà tout ce que j'ai sur cette personne qui est née en 1977.
Voilà, et Presqu'île d'ailleurs, que je vous invite aussi à lire, c'est un petit recueil de nouvelles, puisque moi je l'ai découvert par Pour mourir le monde. J'ai eu envie de lire plus de Yann Lespou, tellement j'ai aimé son écriture. Et Presqu'île, en fait, c'est des recueils de petites nouvelles qu'il a écrites sur le Médoc, dans lequel il a grandi, où il habite, je ne sais même plus. Mais alors, il y a des petites nouvelles sur les us et coutumes des habitants du coin, mais c'est, enfin, je riais fort. Enfin, ça m'a fait mourir de rire. Enfin, bref. Mais le livre Pour mourir le monde, lui, par contre, ne m'a pas du tout fait rire. Je n'ai pas souvenir dans sa lecture d'avoir vraiment ri. Au contraire, mais par contre, qu'est-ce que c'était bien. Au-delà de la couverture qui est magnifique, alors là
ouais,
je l'ai.
Très belle couverture.
Bah, là je l'ai sans sa couverture en temps normal. Comme j'aime pas lire avec deux couvertures, j'avais enlevé la première.
Ah mais celle-là est très bien déjà.
Voilà. Donc la première, on a une espèce de vieille carte marine qui nous plonge direct dans l'époque à laquelle ça va se passer. Donc c'est chez Agulo. Voilà, une maison d'édition, pareil, qui publie des belles choses. Et donc, dans Pour mourir le monde, on va suivre trois personnes essentielles, qui, une dans le Médoc, Marie, une jeune fille, qui travaille dans un bar, qui a un métier un peu pour apporter quelques sous à sa famille, un endroit un peu assez sordide, qui fait un peu écho à l'ambiance des pubs londoniens dont Elodie parlait. Qui à un moment donné il va y avoir un fait divers et elle va devoir aller se cacher, donc elle arrive à s'échapper de ce Bordeaux dans lequel elle ne peut plus rester, pour, si je me souviens bien, parce que le début je ne l'ai pas relu et je l'ai lu vraiment quand il était sorti, je pense qu'elle doit traverser la Gironde, donc qui est quand même, l'estuaire est quand même assez grand quand on est en 1625, pour aller de l'autre côté, et là elle est hébergée par quelqu'un de la famille qu'elle ne connaît pas, et ce sont des pas des naufrageurs mais des personnes qui ramassent et qui pillent les bateaux qui se sont échoués contre la côte, et à cette époque là ils étaient quand même assez nombreux, donc on a cette ambiance quand même de naufrageurs, de pirates dans l'âme. Puis elle se planque, et le fait qu'elle se planque là, ça veut dire qu'elle a fait quelque chose de grave. Mais personne ne lui demande rien. Donc on est vraiment dans cette ambiance-là. Donc là, ce que je viens de raconter sur Marie, c'est saucissonné. C'est-à-dire qu'on est, on l'a suivi dans plusieurs chapitres déjà. En parallèle de cette histoire, lui, on a Diogo. Diogo, c'est un orphelin portugais qui va se retrouver aller vers Bahia, enfin vers Salvador de Bahia, auprès des négociants, j'allais dire trafiquants, auprès des négociants hollandais. Et donc, on suit un petit peu les échanges de poivre, comment on remplace du personnel qui a navigué par de la marchandise et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe quand un bateau s'échoue, enfin, toute la piraterie, tout ce qu'il peut y avoir. Et on a une troisième frégate, j'allais dire, une troisième personnage qu'on va suivre, c'est Fernando. Fernando, lui, donc, il a été enrôlé de force par l'armée portugaise. C'était un jeune orphelin de l'Alentejo, du Portugal. Donc on a beaucoup le Portugal qui revient, et ça va être ces trois personnages-là, à un moment donné. On se doute bien, à force de suivre leur vie séparée. Donc on va en passant par un peu partout dans le monde, on va les retrouver donc aux abords du Portugal. En plus de cette histoire, au-delà de tout ça, ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu la temporalité de l'histoire et la fragilité en fait des colonies, enfin de ces colons hollandais, portugais ou autres, qui quand même ont été construits grâce à toutes ces navigations. En même temps, la force et leur faiblesse par rapport au nombre qu'ils étaient. Et il a mis tout ça
un mot, un livre, et c'est, enfin, ça nous tient en haleine jusqu'à la fin, tellement on a envie de savoir, enfin, on sait que ces personnes-là, ils vont se croiser à un moment donné, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, dans quelles conditions. Et c'est, mais alors c'est divinement écrit, c'est pareil, c'est tiré donc de faits réels. Hein, au départ, la première frégate qui part avec, je crois, deux bateaux qui sombrent, c'est vraiment tiré d'un vrai moment de l'histoire donc de la navigation portugaise. Et d'ailleurs, et le titre même de Pour mourir le monde, c'est la fin d'une petite citation d'Antonio Vieira qui avait écrit l'expansion portugaise dans Le Monde. Donc c'est vraiment... voilà, c'est là où c'était intéressant de connaître son parcours à Yann Lespoux, parce que c'est tiré vraiment d'histoire vraie, donc ça embarque encore plus dans tout ça.
Je sais pas si tu te souviens, c'est sur combien de temps le récit, c'est...
J'en ai aucune idée. Là, je suis à Côte du Médoc en janvier 1627, et sur la fin, je crois qu'on est à Lisbonne.
Elle va calculer, Élodie. Janvier 1627. Non, non, mais elle est très forte.
Ah non, j'étais restée sur le Médoc, moi.
Parce qu'à la fin,
les premiers effets sont sentir.
Le sevrage,
j'ai dit ça avec un livre, un micro, là-même. On pourrait avoir des micros sans fil.
Bon, mais on cherchera après, c'était comme ça. C'était juste parce que c'est un assez gros livre, quand même.
26, ouais. Le Ferrel, 26, mais après,
300 pages, à peu près.
Ouais, un peu plus, ouais.
Un peu plus.
Et 350.
Ok.
Voilà, mais c'est vraiment passionnant. Enfin, j'avais hésité à vous parler des naufragés du Vagar, qui est aussi super, mais celui-là m'a vraiment, vraiment marqué.
Ok, merci. Voilà. Mais de toute façon, si on a le temps, on pourra parler de l'autre après.
On verra.
Merci Valérie. Allez, le moment que tout le monde attend. Zélie va nous présenter Poisson-Fesse de Pauline Pinson, qui fait les illustrations, et Magali Le Huche. Non, Pauline Pinson a écrit l'histoire et Magali Le Huche a fait les illustrations.
Ben, je pense que je peux commencer en lisant le tout début de Poisson-Fesse. Donc ça commence tranquillement. Poisson-Fesse a une tête de fesse. Tout le monde le lui dit.
C'est vrai qu'il a une tête de fesse, Poisson-Fesse.
Oui, un peu.
Poisson-Fesse ne sait pas vraiment quoi répondre. C'est vrai que sa tête ressemble à des fesses. Il décide de faire des proutes avec sa bouche. Ça fait rigoler les copains. Comme ça, il ne pense plus à se moquer de lui. Donc voilà comment débute l'histoire de Poisson-Fesse, qui s'appelle en réalité Damien, puisqu'il a totalement un prénom.
Ah ouais, c'est rigolo ça. C'est bien le prénom de Poisson-Fesse, Damien. Les Damiens qui nous écoutent m'excuseront.
Je pense, pour bien débuter la soirée. Donc voilà, c'est un poisson qui a malheureusement une tête de fesse, et donc il est embêté par tout le monde. Et pour éviter les moqueries, il préfère en rire, mais il n'a pas tout le temps envie de rire de ça.
Oui.
Donc il va décider d'aller dans les abysses pour rencontrer d'autres poissons. Il va tomber sur plein de poissons différents, des poissons chats, des poissons d'Annecy. Il va tomber sur Steven, qui est un poisson tome de Savoie. Et donc, une vraie histoire d'amitié va se créer entre ces deux personnages complètement loufoques et bizarres. Et finalement, ils vont se rendre compte qu'ils ont plein de qualités, qu'ils ont plein d'activités autres que leur physique, finalement. Et donc, ça va être une belle histoire sur l'acceptation de soi, sur le harcèlement aussi. Donc,
la différence.
La différence, tout à fait. Donc Damien, ce petit poisson-fesse qui devient grand et qui lui aussi, au premier abord, juge un peu poisson de tome de Savoie en se disant que c'est quand même pas de chance.
Ouais, des belles couleurs. Quel âge à peu près?
Je pense des 3 ans. Honnêtement, ouais. On peut commencer même un peu plus tôt. Et ça fait bien rire les enfants. Ouais. C'est super drôle.
Elle l'a testé encore cet après-midi, Zélie.
C'est approuvé.
ouais, ça a l'air. Pauline Pinson, Magali Le Huche, elles sont copines dans la vie. Voilà, et donc elles ont créé ce livre ensemble. Que dire sur elles, Pauline Pinson? Si, elle a co-réalisé l'adaptation de Jean-Michel Super Caribou pour France Télévisions. Voilà, on connaît tous la bande dessinée et le dessin animé. Et elle a fait plein de choses connues. Hein, je ne sais plus lequel. Viking Girl, voilà, entre autres. Et Magali Le Huche, région parisienne, 1979, c'est sa date de naissance. Les arts décoratifs de Strasbourg, des années d'illustration. Et pareil, elle illustre plein d'albums jeunesse. En tout cas, ouais, c'est intéressant, ça a l'air très drôle et ça a de très belles couleurs.
Et c'est publié chez Les Fourmis Rouges.
Voilà pour l'album jeunesse des personnes qui veulent pas beaucoup lire pour les émissions. En attendant, on va se faire une pause musicale.
Ou alors des personnes qui sont spécialisées en littérature jeunesse.
Ou sinon, peut-être bien, comme Zélie. Allez, on fait une pause musicale. On va écouter Jersey du groupe Grandville. Ça sent l'océan, tout ça. Ça sent la mer. Et on revient juste après.
J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi. Mon Hawaï à moi, cette île que j'aperçois de la plage de Grandville. Tout oublier, laisser le vent souffler et prendre la mer pour tout recommencer à Jersey. Et je cours sur l'eau, je fais mieux que Jésus. Je te prends la main, je t'emmène avec moi. Que tu le veuilles ou non, c'est ainsi et voilà. Les oiseaux aussi font la course avec nous. Et voilà, je prends la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. Cette île que je touche du doigt, je vais tout recommencer à Jersey. J'aimerais prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi,
t'emmener avec moi. Tu recommences à Jersey.
Et voilà donc pour le groupe Grandville qui nous chantait cette chanson, Jersey sur cette petite île sur les côtes bretonnes. Allez, on va parler de mer, je vais vous présenter un livre qui s'appelle, hop, j'ai le micro qui grésille un peu.
Qui grésille, oui.
Qui s'appelle « Je vais aller à la mer ». Non mais vas-y, je vais te laisser prendre le livre. Voilà, c'est bon. Hop, on va rebrancher un peu le câble. Je veux aller à la mer où l'on apprend que la mer est à 503 km. Alors c'est de Joe Osland avec des illustrations de Jean-Pierre Blampin. Alors Joe Osland, c'est une femme, une écrivaine qui aborde souvent dans ses livres des histoires vues par des enfants. Donc son premier livre, c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est sur la famille, une famille pauvre, assez pauvre. La famille de Johnny, qui a 8 ans, qui est un enfant de banlieue et qui rêve que d'une chose, c'est de partir à la mer et qui n'y est jamais allé. C'est une histoire assez simple, assez touchante sur cet univers-là. Johnny, il aime une chose, c'est partir à la bibliothèque, mais pas pour lire des livres, c'est juste pour partir en bus, se mettre derrière le chauffeur, imaginez qu'il conduit, qu'en fait il s'arrête pas à la bibliothèque, mais qu'il va jusqu'à la mer. Voilà, donc il y a plein de métaphores dans ce livre. C'est 503 km, la métaphore sur l'écart entre nos aspirations et leur accessibilité. Autre métaphore, l'océan en tant que symbole de liberté, de découverte de soi, toujours à travers les yeux d'un enfant. Voilà, c'est un très beau livre, c'est assez court. Bravo à Jean-Pierre Blampin, qui est un peintre qui fait de la gravure, de la sculpture, qui a fait de très belles illustrations, qui sont bien sûr en noir et bleu comme l'océan. C'est un peu du roman graphique. Tu l'accordes, Elodie ?
Oui.
Voilà. Ça parle aussi un peu de poésie, parce qu'il y a une bonne partie qui se passe, bien sûr, dans la bibliothèque. Voilà. Et donc, Joe Estland a fait beaucoup de livres jeunesse que je vous conseille, qui sont rapides à lire. Après, je l'ai lu à mes enfants, ils n'ont pas trop aimé, parce qu'ils n'ont peut-être pas vu les messages qu'il y avait derrière. Parce qu'il ne se passe pas 50 choses dedans. Mais moi, je le conseille à tout le monde. Voilà.
À partir de quel âge, du coup ?
À partir de quel âge, je te dirais à partir de ouais, 8-11 ans. Voilà. Mais bon, c'est pas un âge où ça les intéresse beaucoup, donc faut voir peut-être un peu plus âgé.
Les tiens, ils ont déjà vu la mer, donc c'est pas un rêve.
Voilà.
Faut peut-être le montrer à ceux qui n'ont jamais vu la mer.
Ouais, exactement.
Ils la voient, la mer, à la fin ?
Et ben, je vais pas te le dire.
Ah pardon, me spoile pas. Pardon, il y avait tellement de suspense. Pardon.
Ah, je balance tout.
30 pages.
Ouais. Allez, mais vu que tu veux tout savoir, je vais te laisser la parole.
Ah, je suis pas comme ça.
Et si. Alors, le livre des merveilles, Elodie, les aventures de Marco Polo, adaptation d'Enrico Lavagno et des illustrations de Mille Tanfanon. Un des rares best-sellers, le livre des merveilles ou le livre de Marco Polo, à avoir résisté à l'évolution des goûts du public pendant des siècles.
Mais tout à fait. Il s'appelait le livre des merveilles ou le devisement du monde. Il y a un titre un peu parallèle à ce livre. Oui. C'est une réédition, enfin non, c'est une édition, mais de chez Nuit Nuit, et que j'ai trouvé très jolie, qui date de 2023, qui nous rappelle un peu les enluminures des palais impériaux.
Parce que les pâtés impériaux...
Ça fait un peu nem, mais c'était plus du tout la thématique.
Mais peut-être.
Du coup,
c'était le mois dernier, les pâtés impériaux.
Pâté de sable, si
du coup,
veux.
On triche un peu parce qu'on part sur les routes de la soie, mais on n'est pas forcément tout en bateau. Hein. Il était un peu à pied, un peu à cheval, un peu à dos de dromadaire. Il avait même... Moi, j'aime bien, à un moment donné, dans ce bouquin où il dit qu'il n'avait pas confiance dans les bateaux arabes. Et donc, ils veulent pas embarquer ils préfèrent y aller à pied. C'est vrai que c'est pas loin, la Chine.
Ben ouais.
Du coup,
il y avait des chameaux.
Du coup, c'est un super voyage. Alors, on rappelle un peu quand même Marco Polo. Moi, j'ai redécouvert, hein, parce que on se replonge un peu dans nos comptoirs des Indes. Vous vous rappelez le commerce triangulaire, tout ce qu'on apprenait à l'école quand on était gamin. Tout ce trafic de lin, d'ivoire, de porcelaine, de pierres précieuses, d'épices. Donc, ça sent bon le voyage, franchement. C'est un livre qui a été dicté en prison pendant 2 ans à Rustichello de Pise. À l'époque, Christophe Colomb, donc suite à une guerre, était fait prisonnier. Il va décider de dicter son livre, enfin en tout cas ses souvenirs de voyage. Il a fait quand même un périple de 24 ans avec son oncle et son père à travers la route de la soie. Et du coup, il va décider de lui dicter un petit peu ses mémoires. On ne sait pas trop si c'est tout du réel, si c'est de l'imaginaire. Il a été beaucoup décrié, parce qu'effectivement, ça a été un best-seller, mais il a été beaucoup décrié parce qu'on disait que soit il avait plagié, soit il avait inventé, que c'était pas possible. Parce qu'il y a des choses dont il parle pas du tout. Il parle pas de la muraille de Chine, il parle pas des pieds bandés. Il y a plein de choses dont il parle pas quand il parle de la Chine ou du Japon. Et donc, ça... Voilà,
Après, s'il parlait de tout, ça ferait 24 ans, ça ferait 8600 pages.
Il dit qu'il a pas parlé de tout et qu'il en a gardé, qu'il en avait gardé sous le pied. Certains disent que les moines copistes qui ont reproduit en centaines et centaines d'exemplaires ont certainement aussi beaucoup édulcoré ou enjolivé un peu le récit. Il y a des passages assez sympas. Moi, j'ai bien aimé. Par contre, on est un peu perdu dans la lecture sur les termes, les pays, parce qu'en fait, forcément, c'est des endroits... Alors, il faut tout le temps se référer à l'index alphabétique qui est à la fin pour essayer de se rappeler. Moi, je ne savais pas que Pékin, avant, ça s'appelait Cambaluc. Donc, il fallait... à chaque fois, il faut revenir. Donc, ça demande un peu de gymnastique là-dessus pour se repérer géographiquement. Mais on est quand même sur un des plus grands récits de voyage et un des plus vieux récits de voyage. C'était c'est le guide du routard de la Chine de l'époque. Mais il y a des super trucs. Alors, on découvre, enfin, lui, il découvre par exemple le papier monnaie. Hein, à l'époque, voilà, il découvre le charbon, il découvre plein de trucs. Donc, il découvre le rhinocéros qu'il appelle les licornes. Voilà, donc on a des.
Ça vient de là.
Ouais, ça vient de là. Mais c'est. Ouais, il y a des belles enluminures qui illustrent tout ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez chouette à redécouvrir. Et puis, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il présente un peu ce qu'il a vu comme un journaliste, en fait. Il ne juge pas. Il est vraiment dans la description des endroits qu'il a traversés. Il faut savoir qu'au départ, il est parti. C'est une famille de marchands vénitiens, hein, la famille des Polo. Et on est au XIIIe siècle. Et quand on part en voyage, en principe, on sait qu'on part pas 6 mois, quoi. On part pendant plusieurs années. Et donc, il est parti jusqu'en Chine et il se retrouve dans la cour légendaire de Kubilai Khan. Hein, qui donc va lui donner des responsabilités. Alors on ne sait pas trop si c'est de l'espionnage ou ou c'est pour collecter de l'impôt, enfin on ne sait pas trop. Donc il y a toute une première partie, c'est sur le voyage à l'aller, et la deuxième partie qui va être sur la description du Japon et sur le retour. Et on apprend plein de trucs. Enfin, moi, je connaissais très mal.
Il y a des illustrations à l'intérieur.
Il y a plein de belles illustrations.
Et ouais, ce que je me dis en voyant la couverture.
Comme c'est joli.
Donc, non, pas ta montre, montre-leur l'ouvrage.
Oh là, l'humour belge.
Ouais, c'est 9h40.
Voilà. Ouais. Et donc, il est revenu, il est rentré, parce qu'au bout de 24 ans de voyage, ils en avaient quand même un petit peu marre. Les polos, ils ont voulu rentrer chez eux. Ils sont rentrés, l'empereur ne voulait pas les laisser partir. Et il les a laissés partir à condition qu'ils remplissent une dernière mission. C'était celle de ramener une princesse mongole, Kukachin, qu'il fallait déposer sur le trajet en Perse.
Ils faisaient taxi en plus.
Voilà, ils faisaient taxi. En tout cas, ils l'ont escorté jusqu'en Perse. Et puis après, ils sont rentrés chez eux en Italie.
Voilà. La belle baleine.
Non, ouais. Mais
c'est un très beau livre.
C'est un très beau livre avec il y a du doré, il y a de belles couleurs. Moi, j'ai bien aimé et j'ai vraiment redécouvert Marco Polo. Marco Polo, qui était quand même, enfin, ce livre-là, le livre des merveilles, qui était quand même sur la table de chevet de Christophe Colomb 2 siècles plus tard, quand il a découvert l'Amérique en pensant être du bon côté. Enfin voilà, mais il n'était pas bon. Il s'était... Oh, Donc la carte, de pas se fier à la carte, quoi. Mais sinon,
il a pris celle-là.
Voilà, ne pas se fier à la carte, mais sinon voilà, un livre à connaître. Quoi.
Ouais. Ok, bravo, mais merci, un beau livre. Ok, super, on va passer à qui alors? Qui c'est que j'ai prévu après ce beau livre?
T'avais
sur Marco
oublié
Polo.
De regarder tes notes.
Si, mais c'est Marlène. Un autre très beau...
J'ai enchaîné sur
les non.
explorateurs.
Non. Non, 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 je veux parler d'un autre très beau livre qui est un ouvrage qui a été réalisé en découpe laser. C'est pas un italien, mais il a un nom un peu italien, Antoine Guillapé, qui nous propose... Guillapé, ouais. Ouais, Guillaume, qui nous propose Pleine Mer, où il a eu d'ailleurs le prix Bologna Ragazzi Awards. Voilà. Alors, si on n'est pas dans l'Italie, là...
Si.
C'est vrai qu'on était sur l'Italie, c'est bien, c'est on a une belle, ouais. Une belle transition.
C'est ça.
Ou pas. Parce que là, du coup, on n'est plus sur l'eau, on est sous l'eau. Donc, ça va être comme Petit Poisson. Alors, pour la jeunesse, du coup, ouvrage pour la jeunesse. Et du coup, comme Zélie a présenté tout à l'heure le petit poisson-fesse, eh bien là, on est sous l'eau. Donc là, c'est une jeune fille qui plonge à la recherche de quelque chose de rare dans la mer. Alors, on peut y voir, si on en a envie, que la mer, c'est la chose précieuse aussi, comme on veut. Il y a aussi le petit côté « je m'émancipe » parce que c'est tous les garçons qui sont sur la plage qui la regardent, qui lui disent « mais non, reviens, reviens, arrête de plonger !» Voilà, puisqu'elle part en plongée apnée. Et donc, c'est alors frustrant à la radio d'expliquer.
Ouais, il va falloir, Marlène, tu te débrouilles.
Mais du coup, effectivement, tu l'as dit, c'est des découpes laser. Et en fait, du coup, les pages en découpage laser permettent de faire un peu comme des calques. En fait, l'image d'après est à un paysage particulier. Et puis quand on tourne,
elle est intégrée dans la feuille d'après avec les découpes.
On voit autre chose
que de la dentelle.
Et c'est très, très joli. Et donc, ouais, effectivement, joli, hein. Elle plonge. Et donc, bon, elle va... Alors, bon, vous l'aurez compris, les perles. On en a parlé un tout petit peu, là, sur... voilà, un...
Avec l'autrice Lydia Pook.
Lydia Pook avait exploré pour les en plongées Australie. Perles en Australie. Donc là, effectivement, elle est à la recherche d'une perle. Mais du coup, on va rencontrer tout le milieu marin. Donc elle va voir des jolis poissons. Elle va nager avec les dauphins, nager avec les raies. Enfin, c'est très, très joli.
Il y a un peu de texte.
Un tout petit peu de texte. Parce que du coup, c'est vraiment le calme de la mer. Mais là, pour le coup, la mer, elle est calme. C'est une plongée toute douce avec la découverte de ce qu'il y a. La méduse, elle est sublime. Fluo, enfin moi, j'adore. Mais
est-ce qu'il y a vraiment une histoire ou est-ce que c'est un prétexte à la découpe laser et au graphique ?
Non, il y a une histoire. Vraiment, ces illustrations et la découpe, elles correspondent vraiment au texte. Donc là, elle plonge avec tout plein de poissons. Donc effectivement, elle est avec tout plein de poissons. Hop, elle découvre une méduse derrière un banc de poissons. Donc voilà, la découpe, elle permet de faire ça. Là, elle nage avec, du coup, hop, là, il y a une tortue. Et du coup, hop, qui découvre, après, il y a les raies, et elle plonge avec,
alors,
etc.
Je vais faire une petite remarque, c'est très beau, mais peut-être à ne pas mettre entre les mains des tout petits, parce que ça a l'air très fragile.
C'est ce que j'étais en train de me dire en regardant, je me suis dit, voilà, c'est ma fille, tout ça.
Et l'huître avec la perle, qui brille. Et qui est en relief. Moi surtout, outre le fait que ce soit sur la mer et qu'effectivement en pleine mer ça prenne vraiment toute sa place là dans notre thématique avec des grandes pages, etc. Ça me permet aussi de dire que du coup Guillopé il a pas fait que celui-là, il a toute une série du même style. Magnifique. Qui sont vraiment à découvrir. Il y a la jungle, il y a la nuit.
Pleine neige, plein soleil.
Il y a la neige, soleil.
Pleine mer, plein désert.
C'est vraiment très, très joli.
Ouais, c'est beau.
Alors après, nous, effectivement, on utilise surtout ces ouvrages-là quand on fait des animations. On a beaucoup de nos partenaires là qui l'utilisent quand ils font
mais après il faut faire attention, voilà. C'est très fragile,
c'est ça, mais après j'ai envie de dire le livre au moins il vit et puis on le découvre aussi, donc bon, il faut pas non plus tout interdire aux enfants. C'est sûr que les tout petits, bon, forcément non, oui. Mais c'était pour présenter cet ouvrage parce que c'est très joli, c'est poétique, voilà, et c'est la plongée, voilà.
C'est une bonne idée.
C'était.
Oh là là, elle sort la
voilà.
Eh bien, je vais quand même le jingle. Il n'est pas encore très travaillé.
Il
va vraiment trouver un jingle.
L'an prochain.
C'est une wildcard imprévue parce que je me rappelais pas que je l'avais. J'allais vous parler d'une histoire franco-algérienne. Et je me suis dit, faisons une wildcard avec du lien.
Oui, vas-y.
Pim. Du coup, wildcard, ça veut dire qu'on présente ce qu'on veut quand on veut.
Exactement.
Et comme tu étais en Italie, moi je me suis dit, on va aller en Sardaigne. On va aller en Sardaigne parler d'un livre. Bon, je suis désolée, c'est encore chez Gallmeister. Et il vient de sortir.
Après, le thème, c'est l'océan, la mer. Donc, ouais. Évidemment.
Ça
s'y prête.
Voilà. Hein. Alors, quand on voit la couverture du livre, effectivement, on est en pleine mer avec des poissons.
Oui.
Mais il n'y a que ça. Et juste, si, notre cadavre. Alors, le titre du livre, c'est Stella. Et notre cadavre, c'est bien Stella. Voilà, qui retrouvait. Échoué sur la
étoile.
Plage. Oui, c'est étoile donc en français. Donc Stella, c'est une jeune fille qui a 17 ans. C'est terrible en fait.
Tu as des choses à expliquer.
Peut-être que tu expliques à tes auditeurs.
Dire que j'allais partir sur Petit Requin et on se retrouve avec une morte
qui porte le prénom et l'âge de ma fille. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Oh punaise. Oui, j'avais pas fait lien sur l'âge en fait. Donc Stella, c'est une jeune fille donc qui vit en Sardaigne. Elle est dans une famille totalement dysfonctionnelle. Et voilà. Tu vois,
là on a tout bon.
Non, mais justement, on a plus à partir de là. Elle est assez. Tout le monde la regarde quand elle passe. Enfin, c'était là ce genre de femme, tu te dis, de jeune fille, tu te dis, on va la retrouver à Milan, on va la retrouver sur les podiums. Sauf que non, un jour de grande tempête, on la retrouve juste toute boursouflée et morte sur la plage.
J'ai l'habitude qu'il y ait des livres avec des prénoms.
On vient de nous plomber l'ambiance.
Ah ben c'était la wild card, excusez-moi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc on a nos enquêteurs, donc Eva et Mara, qu'on retrouve dans beaucoup de livres de Pulici, L'île des âmes, les innocents, enfin voilà, qui vont venir enquêter sur la mort de Stella, avec tout un tas de rebondissements. Alors ça met un peu de temps à démarrer la première partie du livre. On cherche, on tâtonne, on ne sait pas trop. Et après, c'est des rebondissements sur rebondissements. Le frangin de Stella sort de prison pour venger sa sœur. Du coup, la police change un peu son fusil d'épaule. Enfin, c'est assez... Mais jusqu'à la fin, on a des rebondissements dans ce livre. C'était donc ma wildcard.
Très chouette, cette wildcard.
Non, il est... pourquoi je parle de Pulici ? Parce qu'il est... Alors, les polars, on a eu beaucoup de modes de polars islandais qui se passent dans le grand froid, dans le grand nord, qui effacent les traces.
Ah, Marlène, elle en avait présenté quelques-uns.
Ouais. Et là, en fait, lui, il est sur un cycle qui se passe en Sardaigne et c'est assez déroutant, le fait que ce soit au bord de l'eau, le côté un peu, on s'attend plutôt à du Serena Giuliano avec Sara Pechetti Amo, que vraiment des meurtres et des choses bien bien gore, bien suspense, bien et c'est voilà, moi c'est ce que j'adore dans son écriture. On suit donc ce groupe d'enquêteurs et voilà, et jusqu'à la fin on croit certaines choses et toutes nos certitudes sont ébranlées à chaque page.
Mais ça fait beaucoup d'enquêtes policières, tout ça. On n'y était pas habitué.
Ah bon ?
Ouais, c'est la première, de toi hein, que tu présentais, non ?
Si, moi, il y avait une petite enquête. Oui, mais là, c'est la wildcard, donc on prend ce qu'on veut.
En tout cas, il t'en a envie.
Non, mais il est vraiment, vraiment bien. Et c'est pareil, c'est même sorti que La glorieuse vengeance de Maud Horton. Voilà, d'accord. Donc, Giorgio Pulici. Donc, c'était là, aux éditions Gallmeister.
Merci.
Qui veut la wildcard pour la prochaine fois ? Je la vends.
Non, tu la vends pas. On décide à qui on la donne, mais on ne vend pas la wildcard.
Je l'ai déjà eu une fois, moi.
Ouais, toi, tu l'as déjà eu.
Le jour de mon bisutage.
On va la garder, on va voir. Tu sais quoi ? On va la donner à Pauline si elle revient.
Tiens, ouais, Pauline,
parce qu'elle devait revenir. Tiens, voilà. Zélie, Petit Requin. Question, Elodie. Petit Requin, quel est l'auteur de Petit Requin ?
J'en sais rien, tu me poses ces questions.
C'est Penguin Box.
Non mais toi, tu avais les livres de tout le monde avant.
C'est pas fait bouffer par le requin.
Ouais, c'est ça.
C'est triche.
Mais c'est un auteur d'animé et mangaka japonais qui s'appelle Penguin Box et qui a écrit
t'avais
Petit Requin.
T'avais exprès de me piéger, je te l'avais dit.
Oui. En plus, elle est pas du tout sur la jeunesse, Elodie.
C'est
donc.
Ça.
Pas du tout.
Et sur le manga en plus. Mais c'est pas un manga, la Penguin Box.
Si, c'est.
C'est un manga en plus, Penguin Box.
Allez, la totale.
Et il y en a trois, il y a trois tomes.
Pour l'instant, il y a trois tomes qui sont sortis. Ouais. C'est une série qui est toujours en cours. Et donc voilà, c'est un manga qui est tout en couleur, qui est vraiment première lecture. Ouais, c'est super mignon.
Super mignon.
C'est adorable. C'est l'histoire d'un petit requin qui vit à 8 poissons. Donc c'est le nom de la ville. Il adore l'ananas, les glaces, et il adore les poissons. Et donc, on suit juste ses petites aventures dans cette ville où il se fait plein d'amis. Tout le monde est adorable avec
lui. Des amis humains.
Oui, des amis humains. Il a aussi d'autres amis plus ou moins poissons, grenouilles. Enfin, voilà, au fur et à mesure des tomes. Il y a de tout. Mais c'est hyper, hyper poétique, je trouve. Très mignon. Et donc, pour des premières lectures, il faut quand même, je pense, déjà maîtriser un peu la lecture pour pouvoir bien avoir le sens... du manga, mais il y a très peu de texte, et c'est vraiment... Enfin, moi, j'adore. C'est les éditions... C'est chez Rue de Sèvres, c'est la collection Le Renard Doré. Tout ce qu'ils font, je suis très fan.
Ouais.
Vraiment,
Le Renard Doré, c'est ça.
On est tous d'accord.
Merci, Zélie. Allez, il est bientôt l'heure. 53, tu avais un autre ouvrage
Avec grand plaisir.
Voilà.
Je cherchais la biographie que tu n'as pas faite.
Oui, j'ai pas vu passer le message à 15h10.
Comme par hasard.
Je sais pas ce que je faisais, mais certainement autre chose.
En tout cas, tu n'étais pas en train de travailler.
Ça faisait 48 heures que j'attendais vos livres. C'est que j'en ai eu 98%.
Heureusement que je fais la bonne élève à chaque fois, moi.
Fayotte.
Il y a des fayottes, là.
Ça durera pas, va.
Irma Pelaton.
Ah, voilà, c'était ça, Irma Pelaton.
Alors, Irma Pelaton, je l'ai découverte.
Marta il y a peu. Alors, je suis navrée pour elle parce qu'elle avait quand même déjà sorti deux livres avant celui-ci. Et un jour, je reçois un mail de la Contre-Allée, donc de la maison d'édition, qui présentait ses sorties du mois. Et je vois Irma Pelletan. Et puis, je souris en me disant, tiens, Pelletan, ça fait très, très lausérien comme nom. Et je recherchais sa biographie parce qu'elle avait écrit quelque chose d'assez marrant en disant, je suis Irma Pelletan, je suis née en 1700 et des poussières. Et comme si elle était la réincarnation de cette dame qui serait née sur les contreforts des Cévennes. En cette année-là, je me suis dit, c'est très original la façon qu'elle a de se présenter, alors que je pense qu'elle-même n'est absolument pas née en Lozère. Mais peu importe, ça a attiré mon regard. Eh bien, très bien, parce que ce livre, je ne sais pas trop comment le présenter. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à savoir où le ranger dans la librairie. Est-ce que je le mets en biographie ? Est-ce que je le mets en sciences humaines, en poésie ou tout simplement en roman ? C'est un livre, en fait, qu'on peut même mettre dans les rayons mythologie. Parce qu'il fait un peu la part à Ophélie, enfin, c'est magnifique. Elle parle donc le titre du livre, c'est Basculement mer.
Est-ce que c'est un rapport avec l'océan et la mer?
Totalement, parce qu'il a écrit, il a non pas été écrit sur l'eau.
On m'arnaque pas là, hein. Elle a déjà sorti la wildcard.
Non, mais là il est vraiment, alors je pense que c'est le plus dans le thème de nous tous après Poisson fesse, puisqu'il il n'a pas été écrit comme Sylvain Tesson au-dessus de l'eau.
Oui, on a oui.
Il n'a pas été écrit comme Maud Horton, Marco Polo, il a été écrit sur l'eau. Alors peut-être, oui, j'avoue que peut-être celui de... j'ai perdu son nom, quoi
De Guillopé.
Guillopé, peut-être celui d'Antoine Guillopé.
Antonio.
Ouais. Il marche,
Antonio
il marche.
Guillopé.
Mais celui-ci, attends, je ne suis pas sûre qu'il l'ait écrit dans l'eau. Il parle de dans l'eau. Moi, Irma Pelletan, son livre, il a été écrit dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle a raconté, en fait, elle raconte le corps, elle raconte les blessures du corps, elle raconte la maternité, et elle raconte tout ça. Elle a écrit vraiment dans l'eau. Si vous ne me croyez pas, sur la première page du livre, vous avez un petit QR code qui vous amène sur une vidéo où elle écrit. Elle est dans sa combinaison qui la meurtrit aussi, pour montrer à quel point le corps peut meurtrir. Et elle a écrit, elle avait un petit carnet waterproof et elle a écrit, elle a écrit son livre, dont Basculement mer, dans l'eau. Et toc, c'est la plus dans le thème.
Prends-en de la graine, Élodie.
C'est toute une démarche. Écoute,
et on la suit de lieu en lieu, tout au long de la naissance, de tout ce qu'on ressent, de tout ce que ressent la mère quand elle est dans l'eau. Là, je crois que Ludo, tu es en Nouvelle-Calédonie, non, je crois?
Oui, en Marquise.
Voilà, on voyage pour revenir près d'ici, puisque je crois que la dernière page, elle est dans l'Allier. Juste avant, elle flotte vers Metz, elle passe derrière le théâtre de la mer. Enfin, elle a quand même pas mal. Elle est parfois en piscine aussi. Elle n'est pas tout le temps dans l'océan ou dans la mer.
Ouais.
Et chaque page, elle donne le lieu où elle se trouve, la température qu'il fait et ses émotions. Et ce qu'elle ressent, et c'est tout.
Mais c'est de la poésie. Hein.
Oui, mais c'est à la fois aussi biographique, et puis ça fait réfléchir, ça fait des... sur ce qu'on fait de nos corps, sur comment ils sont à la fois forts, à la fois fragiles, et c'est d'une beauté à la lecture. C'est absolument magnifique. On n'a pas l'impression de lire un livre de poésie. Tiens, tu peux lire, si j'ai marqué un petit marque-page.
J'allais te dire,
lecture.
Toi qui as l'habitude de nous lire des poésies, des rimes, tu pourrais le lire.
Tu peux lire, si tu veux, le 8 décembre.
Le 8 décembre
et le
9.
Le 8 et le 9.
Qu'un seul.
Bon, ça va vite, lis le 8 et le 9.
Alors, 8 décembre, Tahiti en piscine. La chimère est corps, surtout. Elle est narine, explore chaque grain de peau, l'odeur si puissante du vernix, enivrante odeur. Réponse hormonale immédiate, ocytocine, drogue dure. 9 décembre, Tahiti en piscine. Ocytocine, drogue dure. 3 jours pleins en trip total, sommeil impossible. La maternité ne m'accepte que 3 heures par jour. C'est pandémie. Le reste du temps en manque terriblement. J'ai trouvé la cam de ma vie.
Génial!
Mais elle se drogue.
Non, c'est l'ocytocine, c'est naturel. Et c'est
tout le long comme ça.
Non, là c'est vraiment.
Non, c'est parce
assez
que
assez
la
court,
suite de parce que toujours elle est à la piscine à Tahiti. Hein. 10 décembre Tahiti en piscine, 11 décembre Tahiti en piscine. Pendant que le 11 décembre, hein, tu te souviens que tu étais en train de galérer Dora, essayer de pas glisser.
J'étais pas dans l'eau.
Hein,
le
t'étais pas
décembre.
Dans l'eau, hein. Tu te donnais pour pas glisser sur les pavés.
En Lozère, on n'est pas dans l'eau le 11 décembre.
On peut pas tous habiter en Lozère. Hein.
13 décembre Tahiti en lagon. Elle a changé. On a dit, oh, piscine, on va en lagon.
Oui, mais après, voilà, il y a des phrases beaucoup plus longues là. Comme
oui, c'était... oui, oui, là c'était court parce oui. qu'il y a des.
Bah, c'est parce que ça faisait des longs côté chapitres. Drogue dure pour montrer à quel point le corps il peut créer aussi par lui-même
les hormones.
Voilà.
Sept.
Et c'est, mais c'est. Mais alors vraiment, ça, ça se lit à la fois comme un roman, on peut lire comme une poésie. Et voilà, ça parle du corps, ça parle de, aussi de. Ouais, du chant d'Ophélie dans Hamlet. Enfin, c'est très, très, très beau. Mais alors, moi, ça a été une découverte totalement fortuite. Juste dû à un nom et un prénom de Sevenol qui m'ont attiré. Après, la Contre-Allée, de toute façon, il publie aussi souvent des magnifiques ouvrages. Et celui-là, vraiment, en est un.
Merci Valérie. Marlène, je vais te laisser le mot de la fin pour que tu nous dises le thème
non.
de la prochaine fois.
Si. Mais non, c'est la conclusion, Valérie était super sur ce thème. Si, on ouais. a choisi. Alors, je préfère que ce soit Elodie, du coup, qui dise.
Attends, on n'était pas là, nous, quand vous avez
si,
choisi.
Si, mais si, si, mais si.
Si, si, tu étais là.
Si, si, tu étais là.
Alors, à l'unanimité, écoute, si, à l'unanimité, on a choisi le thème de la prochaine émission, qui sera les super-héros et les super-zéros.
Mais non, on avait dit les losers magnifiques.
Ouais,
mais
c'est ça.
Ouais, bah c'est pareil.
Super héros, super héros,
super héros aussi.
Ok, super.
Tu veux que je t'en envoie un de super héros? Allez, c'est lui.
Au revoir. La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.